Bonsoir les amis des livres et des apéros. Un monstre, ça fait peur, ça dégoûte un peu, ça fait frémir. Non, 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 on évacue. On se rabat sur une normalité rassurante. C'est vrai, on est plus à l'aise avec du semblable, de l'identique, de l'inoffensif. Cacher ce monstre qu'on ne saurait voir. Oh, oh, mais quelle erreur, grince la littérature. Oh, mais le simplisme de Dupont-Monod, c'est ça qui est monstrueux. Regardez du côté des livres, c'est l'inverse. Le monstre, évidemment qu'il nous ressemble. Quand Victor Hugo invente le sien, comment il l'appelle ? Quasimodo, ce qui signifie en latin « quasiment comme », sous-entendu « quasiment comme nous ». Et le Frankenstein de Mary Shelley, il est bien plus humain que ceux qui le pourchassent. D'ailleurs, la vouivre de Marcel Aimé, elle tombe amoureuse. Et la bête, quand elle voit la belle, son cœur se serre. De toute façon, sans le monstre, impossible de définir le genre humain. Sans l'anomalie, impossible de définir la norme. Et s'il faut encore une preuve, eh bien lisez « Monstre et monstruosité », un essai de Laurent Lemire paru chez Perrin. Sur les parois de la grotte de Lascaux, on trouve une forme humaine avec une tête d'oiseau. La première représentation d'un monstre date donc de 13 500 avant notre ère. L'histoire du monstre a toujours accompagné celle de l'homme. Et à travers cette radiographie, Laurent Lemire en explore les différents aspects, du centaure à King Kong, en passant par la femme à barbe des foires ou le grand criminel, monstre de cruauté comme on dit. Mais, cauchemar ou prodige, le monstre nous a si bien compris. Il cristallise les peurs et les fantasmes d'une société, il incarne les tréfonds de l'humain, voilà pourquoi il est matière si féconde pour les artistes et pour les essayistes. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Laurent Lemire, forcément monstrueux, un énorme amuse-bouche qui fait peur. Il nous livrera ses secrets d'écriture aussi gardés qu'un cœur sous une tonne de poils et de griffes. Ce sera le procès-verbal. Nous révélera ses vices culturels cachés, comme on révèle une formule pour créer de la normale dans un laboratoire. Ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire, gardien de nos monstres intérieurs, ne vienne adouber le cassé, l'excessif et valide le bizarre comme beau.
France Inter. L'amuse-bouche, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Laurent Lemire.
Bonsoir Clara.
Étymologiquement, monstre vient du latin monere, qui signifie montrer. Montrer quoi ?
Le monstre à l'origine est une créature envoyée des dieux qui est censée montrer quelque chose aux humains. Alors souvent quelque chose de cataclysmique parce que le monstre fait peur. Ce sont des créatures qu'on retrouve, c'est le Léviathan dans la Bible, ce sont les créatures qu'on retrouve chez Homère. Bon, on voit un petit peu quel est ce bestiaire un peu fantastique. Donc ces créatures sont là pour nous faire peur et pour indiquer qu'il va peut-être se passer quelque chose. On a souvent dans l'histoire considéré que l'apparition de monstres animaux ou humains indiquer une victoire lors de guerres, une bataille gagnée, etc. Ça s'est produit quelques fois. Une fois à Ravenne, on a dit que Gaston de Foix avait vaincu le pape parce qu'un enfant monstrueux était apparu quelques mois auparavant.
Alors vous parlez d'un enfant, mais pendant longtemps, le monstre a rimé avec gigantisme. Des gorgones à Jurassic Park, en passant justement par King Kong, on envisageait le monstre comme une masse énorme. Il était forcément disproportionné au niveau de la taille.
Le monstre est forcément grand, il est gigantesque parce qu'il doit impressionner, il doit faire peur. C'est le Léviathan qui est un monstre marin. Ce sont toutes les créatures qu'on peut retrouver dans l'Odyssée d'Homère. Ce sont aussi tous ces personnages qui existent dans un imaginaire créé de toutes pièces sous l'Antiquité, donc des personnages qui sont assez fascinants, qui n'ont qu'un pied et qui se protègent du soleil en recourbant ce pied, on les appelait les schiapodes, d'autres qui ont de grandes oreilles et qui sont obligés de porter à la main, qui leur servent aussi à voler, on pense à Dumbo. Alors des personnages comme ça qui sont grands, bizarres, fantasques, et on considérait que ces créatures existaient, c'est-à-dire qu'en dehors, avant les grandes découvertes, bien évidemment, du XVe siècle, on considérait qu'il existait sur Terre des endroits inconnus avec des peuplades complètement bizarres.
Et de la même façon, pour revenir à la taille, ce sont ces films d'horreur, vous savez, des années 50 à peu près, où l'araignée, qui d'ordinaire est toute petite,
Absolument.
Est vue en énorme gros plan, et là il y a le gigantisme du monstre.
Oui, et une araignée qui est grossie 1000-2000 fois devient épouvantable. Et alors, l'autre phénomène, ce qui peut devenir monstrueux, c'est la quantité. C'est-à-dire qu'une fourmi, ça ne fait pas peur. Si vous en avez un milliard,
C'est l'attaque des fourmis ou des cafards.
Exactement.
Parfois, le monstre n'est pas vraiment là où on l'attend.
Tu es difforme.
Je suis difforme.
Et tu es très laid.
Et je suis très laid.
Ce sont des crimes aux yeux des hommes qui sont sans pitié. Mais tu ne comprends rien.
Vous êtes mon défenseur.
En bas, ils te traiteront de monstre.
Je suis un monstre.
En bas, c'est la haine et le mépris.
Oui, rien qu'un monstre.
Tu dois fuir leur calomnie, leur intolérance. Reste ici, reste-moi fidèle. Reconnaissant, fais ce que je dis, obéis et reste ici.
Le bossu de Notre-Dame, c'est le dessin animé de 1996. Vous écrivez, Laurent Lemire, dans Les Misérables, ce n'est pas le difforme Quasimodo qui est le moins humain, mais Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Ça veut dire que parfois, le vrai monstrueux, il est du côté du normal. C'est ça que voulait montrer Hugo.
Absolument, et c'est-à-dire qu'on a une monstruosité intérieure. Le Frollo, effectivement, le personnage qui est diabolique, alors que celui qui est difforme a une humanité extraordinaire. C'est quelqu'un qui aime les gens, ce qui n'est pas le cas de Frollo, mais on retrouve ça d'une certaine manière dans un roman évidemment immensément connu, Frankenstein, où le monstre, la créature d'ailleurs, c'est la créature de Frankenstein, elle est difforme, faite à partir de cadavres, mais le vrai monstre, c'est un peu le médecin qui se prend pour Dieu et qui crée ça, se prend pour Prométhée.
D'ailleurs, vous signalez que parfois les serial killers, ils ont l'air affreusement humains. Vous citez une dame de Célestat en 1817 dans votre chapitre Les monstres criminels, qui tue son enfant, qui mange sa cuisse, elle est jugée et elle a un air absolument exquis, elle a l'air très gentille. C'est le monstre à visage humain, en fait.
Oui, c'est le monstre à visage humain, vous avez raison. C'est aussi cette bascule entre le propre et le figuré. C'est-à-dire qu'à partir du 19e siècle, on commence à se considérer que la monstruosité peut être intérieure. On peut être un monstre criminel, on peut être aussi un monstre d'égoïsme, c'est moins grave. Et dans l'affaire de Célestat, c'est effectivement... C'est une affaire qui a longuement été traitée par Michel Foucault dans ses cours sur les anormaux. Et lui, il avait une théorie, il expliquait que la monstruosité, c'est aussi la société qui a rendu ces gens extrêmement pauvres et les a, d'une certaine manière, contraints à l'anthropophagie. C'est une vision un peu personnelle de cette histoire, mais c'est vrai que là, on a une monstruosité, mais il y a d'autres cas comme ça, de monstres criminels. On ne sait pas pourquoi ils passent à l'acte, alors ça, c'est autre. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'idée qu'il y a derrière le monstre trop de quelque chose. Alors, les Grecs disaient un peu trop de sperme, c'est-à-dire qu'il y avait trop de semences, donc il y avait un membre supplémentaire ou il y avait deux têtes, etc. Et ben cette idée se retrouve dans la monstruosité intérieure, c'est-à-dire on dit c'est quelqu'un qui a trop de haine et il dégorge de haine, et alors on peut avoir des monstres criminels, terroristes, etc. C'est-à-dire que ça peut aller très loin, mais c'est toujours un excès considéré comme un excès de quelque chose.
Vous signalez que parfois, malgré ces excès, mystère du genre humain, mais les serial killers attirent les femmes.
Dites-moi, sénateur, avez-vous pris soin de Catherine vous-même?
Comment?
Avez-vous donné le sein?
Non, attendez une minute.
Oui, c'est exact.
Ça renforce les mamelons, à ce qu'on dit.
Vous êtes un monstre.
Hannibal Lecter, alias... Eh oui, je vais par Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux en 91. Vous êtes un monstre, termine l'extrait du film. Effectivement, parce que le monstre peut fasciner jusqu'au vertige. Vous parlez des femmes qui...
Oui, il y a des femmes qui ont entretenu des correspondances avec des serial killers, qui ont même voulu se marier avec eux.
Et du coup, ça voudrait dire que le monstrueux peut susciter du coup le désir.
Oui, mais c'est vrai, parce qu'on retrouve cette idée-là dans l'origine même du monstre. C'est parce que le monstre, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'anormal, et surtout, c'est quelque chose de rare, puisqu'il est censé être envoyé par les dieux. Donc, c'est cette rareté qui intrigue, cette anormalité qui peut fasciner. Il y a une fascination aussi pour le diabolique, pour l'interdit, pour tout ce qui est transgressif. Donc, à mon avis, ça se joue aussi psychologiquement dans ce registre-là.
Vous écrivez, après la nature, les premiers fabricants de monstres furent les artistes.
Oui.
Et vous rappelez que Goya, par exemple, a titré sa série de gravures « part, je cite, « le sommeil de la raison engendre des monstres ». Quel est le lien entre l'artiste et le monstre? Est-ce que l'artiste en a pas peur ou au contraire, est-ce qu'il en a tellement peur que du coup il le figure? Quel est le lien entre les deux?
L'artiste en a sans doute besoin. Ce qu'exprimait Goya sans doute, c'est-à-dire que si on met sa raison de côté, et l'artiste a quelquefois besoin pour créer, de mettre sa raison de côté et d'être déraisonnable. Et là, cette déraison-là conduit vers une sorte d'onirisme, et l'onirisme peut effectivement générer des personnages monstrueux, des situations anormales, des choses extrêmes.
Notre regard, il a évolué sur le monstrueux. On ne regarde pas aujourd'hui les choses qui auraient été monstrueuses hier. Et du coup, quels sont nos monstres aujourd'hui ?
C'est vrai que ça a évolué, parce qu'on est aujourd'hui, on dirait pas, le mot monstre est un mot un peu valise, gigogne. Aujourd'hui, certaines personnes qui étaient considérées au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle comme monstrueuses, on dirait aujourd'hui ce sont des handicapés, des gens qui ont de vrais soucis de morphologie et qu'il faut traiter parce qu'il y a une véritable souffrance. Les monstres aujourd'hui, ce sont plutôt les monstres intérieurs, c'est-à-dire les monstres dont on voudrait quelque part se libérer, et c'est plutôt ce qui fascine, hélas, les gens. Alors, il y a les monstres criminels, qu'on peut retrouver dans des romans, mais pas que dans des romans. En ce moment, il y a un procès, je crois c'est à Annecy, où d'une femme qui a tué plusieurs personnes, empoisonné plusieurs personnes dans une maison de retraite, et l'avocat dit, de la défense, dit ce n'est pas un monstre, c'est quelqu'un comme nous. Et ça, on revient toujours à cette idée que cette monstruosité-là, elle peut être en nous. Et il y avait une phrase d'un des freaks de Todd Browning, qui était le fameux homme tronc, il disait, Johnny Heck, il s'appelait Johnny Heck, « Quand je veux voir des monstres, je regarde par la fenêtre ». On pourrait aller encore un petit peu plus loin, dire « Quand je veux voir des monstres, il y a ce qu'on appelle le miroir ».
Ou Internet, parfois.
Ou Internet, exactement. Qui est une sorte de miroir aussi, de grand déversoir, de tout un tas de fantasmes, d'excès. La normalité, c'est l'écart, c'est aussi ce qu'on a envie de transgresser. Donc on va sur Internet pour dépasser ce cadre peut-être un peu confortable. Mais alors, jusqu'où on met les limites, c'est ça. Parce que c'est aussi le problème du monde, c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant normal ?
Nous nous sommes demandé quelle musique écouteraient ces monstres. Eh ben oui, qu'est-ce qu'ils écouteraient Michel Thor. Non, raté, non. Mais ça c'était méchant. Mais non, c'est plus facile. C'est Monster, facile, de Nina Simone en 1966. Ça c'est pour vous, Laurent Lemire.
What's as big as a mountain and grows bigger every day till it's taller than the sky.
Monster life.
What can change happy lovers into hurting lonely souls? Just as we are, you and I. It's a monster, a monster,
a monster life.
Gossip can be an ugly thing, tearing love like flowers apart. As big as a mountain and grows bigger every day till it's taller than the sky. It's a monster,
a monster life.
What can change happy lovers into hurting lonely souls? Just as we are, you and I.
Monster life.
Gossip can be an ugly thing, tearing love like flowers apart. How could you believe I was untrue when I love you with all my heart? Darling, one silly rumor coming from two lying lips.
monster lies.
It's a monster, a monster.
L'Amuse-Bouche sur France Inter.
Laurent Lemire est avec nous jusqu'à 20h pour son essai « Monstres et monstruosité », une plongée pas si effrayante parmi les monstres. Pas si effrayante parce que parfois, il y a des monstres gentils.
Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis.
Casimir dans l'île aux enfants, voilà. Toute une génération se dandinera sur ce générique. Casimir, c'est l'incarnation du gentil monstre, Laurent Lemire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un énorme paradoxe dans le principe du gentil monstre ?
Oui, parce que c'était sans doute voulu, parce que quand on dit à quelqu'un c'est un monstre de gentillesse, c'est presque péjoratif. Et le Casimir de l'île aux enfants, c'est le monstre gentil des années Giscard. Alors bon, le giscardisme, on ne va pas dire que c'est une monstruosité quand même. Mais ça correspond aussi à la manière d'essayer de tordre un peu l'idée difficile, douloureuse, effrayante du monstre et dire qu'il y a des monstres sympathiques. Alors j'ai recherché un petit peu dans l'histoire et on s'aperçoit que chez Rabelais, il y a déjà des monstres gentils, c'est-à-dire des monstres apaisants qui sont là pour aider les gens, pour les
notamment
comprendre.
Notamment avec Pantagruel.
Voilà, absolument. Aujourd'hui, après Casimir, on retrouve ça avec les monstres et compagnie des studios Pixar. Et on peut retrouver des monstres gentils aux côtés de monstres méchants dans la série Star Wars. On peut en trouver aussi. Alors bon, il y a d'autres cas comme ça, mais effectivement, c'est une manière de tordre un petit peu l'image négative du monstre. Et peut-être que le premier à avoir fait ça, c'est que on avait par exemple dans ce qu'on appelait les monstres de foire, qui étaient des nains. Aujourd'hui, encore une fois, on ne peut pas parler de monstres, ce sont des gens qui ont des handicaps. Les sept nains de Walt Disney ont complètement changé la vision qu'on pouvait avoir.
Mais, du coup, est-ce qu'on peut dire que Blanche-Neige et les sept nains, ou Star Wars que vous citiez tout à l'heure, est-ce que ça a été des triomphes au cinéma ?
Absolument.
Donc, est-ce que ce sont aussi eux qui ont permis, finalement, de dissocier la difformité physique avec de la difformité morale ? Parce que pendant très longtemps, on partait du principe, si j'ai bien compris en vous disant, que le repoussoir physique était lié au repoussoir moral.
Oui, vous avez raison, absolument. Et là, on a tout de suite essayé de montrer que cette difformité physique n'avait rien à voir. Alors, on parlait tout à l'heure de Quasimodo, mais cette difformité physique n'avait absolument rien à voir avec une difformité morale. Et effectivement, ça a beaucoup fait pour changer le regard qu'on portait sur le corps des autres et sur ce qu'on appelle l'altérité, l'autre.
Ça arrive tard quand même, hein, parce que on est au XXe siècle. Hein.
Oui, mais ça arrive très tard, mais des personnages qui étaient montrés comme des esclaves, comme John Merrick, le fameux Elephant Man, on est au XIXe siècle et il faudra attendre, si on a le cirque Barnum, jusqu'au XXe siècle pour qu'on considère que ces gens qui ont des handicaps et qui souffrent véritablement de tout un tas de déficiences, de manque de membres, etc., soient reconnus comme des gens que l'on doit soigner et aider.
Et puis que l'humanité n'est pas liée au corps.
Absolument.
Que l'humanité est liée à un regard, à une grandeur d'âme et que ça s'appelle un humain tout simplement.
Oui, absolument.
Cela dit, parmi les monstres gentils, pour revenir à eux, il y a une figure que j'affectionne parce qu'elle est un peu ambiguë.
Je suis seul depuis longtemps. Non pas parce que je le veux, mais parce que tant que je n'aurai pas réglé ce problème, je n'aurai pas le choix. Il y a certains aspects de ma personnalité que je ne maîtrise pas.
La cible est sur la passerelle.
Quand je ne maîtrise plus rien, c'est très dangereux d'être près de moi.
Oula. Le film L'incroyable Hulk en 2008, parce qu'il s'agit bien de Hulk, et vous dites qu'il, je cite, renverse la morale habituelle.
Oui,
pourquoi ?
C'est parce que c'est le fameux Dr Banner, parce que là, on a vraiment la transformation. C'est-à-dire que c'est un être tout à fait normal qui passerait totalement inaperçu, mais lorsqu'il se met en colère, donc qu'il, quelque part, d'une colère énorme, c'est-à-dire plus qu'une passion triste, eh ben, il se transforme en monstre. C'est-à-dire que monstruosité, si on considère la colère comme étant une anormalité quand elle est poussée à l'extrême, elle va se voir physiquement.
Et surtout, elle sert la colère à réparer une injustice.
Absolument, oui, oui. À réparer une injustice. Parce que, évidemment, ce personnage qui devient un monstre, un personnage, un mutant, eh bien, il va essayer, évidemment, de faire le bien. C'est-à-dire que cette colère qui génère une transformation physique va être au service du rétablissement de la justice.
Ça veut quand même dire donc qu'il y a des colères, comme dirait Ségolène Royal, saines et utiles.
Non, mais c'est oui, ça que c'est ça veut dire. Message, ben oui, c'est un beau message, absolument.
Et c'est quelque chose d'assez peu entendu. On dit en général que la colère, ça fait partie des défauts de quelqu'un. Et en voilà un qui arrive et qui dit que la colère, non seulement le transforme physiquement en quelque chose qui fait peur, mais in fine, en fait, qui est quand même réparateur de tort.
Oui, parce que la colère, là, elle est presque liée à l'indignation face à une situation qui est moralement là, insupportable. Et donc, la personne va agir. Mais elle va agir avec beaucoup plus de force. Elle va parvenir à se transformer pour faire le bien, d'une certaine manière.
Alors, vous dites quand même qu'au XIIe siècle, le monstre est apparenté à un miracle, à un prodige. À quel moment le monstre il commence à faire peur? À quel moment on bascule dans le rejet? Parce que vous expliquez quand même qu'il est intégré le différent dans différentes sociétés anciennes.
Il a toujours été considéré dès les origines quand même comme un personnage, comme une créature qui était censée un peu effrayer les hommes. On s'y est habitué parce qu'on s'est dit les monstres sont quand même des personnages rares, donc on voit peu qui sont envoyés par Dieu. Alors après, on a les anormaux. Qui sont des êtres humains, à qui il manque quelque chose, une tête, des bras, etc. Et au Moyen-Âge, on vit plus ou moins avec eux, un peu comme on vit avec les fous, qui sont aussi des gens un peu marginaux. Quand on a commencé à psychiatriser tout ça, c'est-à-dire à enfermer ces gens, ou à les montrer dans des foires, donc 17-18e siècle et 19e siècle pour la psychiatrisation de tous ces anormaux, là, ça commence à faire peur. Le fait de les mettre de côté, de les enfermer, on dit justement, c'est pour s'en séparer, c'est pour s'en protéger. Donc, ils sont dangereux. Ce qu'ils nous renvoient physiquement est quelque chose qui n'est pas supportable. Et la plupart des gens qui, d'ailleurs, allaient dans les foires voir des anormaux comme John Merrick, Elephant Man, c'était à la fois pour se faire peur. Évidemment, parce qu'on aime bien malgré tout avoir peur, mais c'était aussi pour se rassurer quelque part de surtout ne pas être comme lui.
Donc c'est en creux se rassurer sur sa propre normalité.
Absolument, absolument.
Et alors d'où vient, Laurent Lemire, l'expression monstre sacré?
Alors monstre sacré.
On regarde ce que vous nous dites, c'est étrange alors
oui,
finalement.
Alors c'est une expression, alors c'est Cocteau qui l'a un peu piqué à Proust, mais c'est Cocteau qui l'a véritablement appliqué aux acteurs de théâtre essentiellement. Et le monstre sacré est quelqu'un qui, lui aussi, est d'une certaine manière anormal, donne tellement sur scène, se dépasse tellement, que ça n'est pas de l'ordre du raisonnable. Donc c'est un monstre sacré, quelqu'un qu'on va voir et un peu vénérer. Il en a existé à l'époque des Celtes, mais c'était plutôt des figures rassurantes, mais qu'on appelait aussi des monstres sacrés. Aujourd'hui, on dit stars. Mais ça n'a pas le même sens.
Non, parce qu'il n'y a pas la notion de débordement.
Voilà. Et là, dans Monstre Sacré, Cocteau a très bien compris que le comédien n'était plus lui-même, quelque part, comme Hulk. C'est-à-dire que lui-même va être dépassé par son rôle et par la force qui lui est transmise par son talent, qui va communiquer au public et que le public va s'en apercevoir.
Alors que Star met en relief la notion d'inaccessibilité, puisque
oui,
l'étoile, c'est loin de nous.
Absolument. Alors que le monstre sacré, il est devant nous. Et il est en train de faire quelque chose qui nous fascine.
Et donc, il est un peu nous.
Absolument.
Il est temps d'aller faire un tour du côté de vos monstres à vous. Ah. Laurent Lemire, ceux de l'écriture, bien sûr. Ouais. Ça tombe bien, c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Lemire.
Votre prénom.
Laurent.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
Assis.
Sur ordinateur ou sur papier?
Sur papier, des petits carnets. Et après, à l'ordinateur. Je commence sur des petits carnets et je termine sur l'ordinateur.
Avec un stylo plume, un bic, un crayon, un papier?
Sur le carnet, au stylo plume. J'aime bien, ça glisse.
Vous êtes chez vous ou vous êtes au café?
Chez moi.
Musique ou silence?
Musique, un peu de jazz ne fait pas de mal.
Au début ou durant toute la séance d'écriture?
C'est plutôt au début.
Est-ce que vous avez un rituel avant ou pendant l'écriture?
Non.
Aucun rituel?
Non, c'est quand l'envie se présente et puis surtout le temps, la disponibilité entre plein de choses.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez ?
Oui.
Vous êtes d'une humeur de dogue ou la politesse tient bon ?
Oh, je suis plutôt poli.
Est-ce que vous pouvez pleurer ou éclater de rire en écrivant ?
Je peux pleurer quelquefois en me relisant, oui.
À quoi ressemble votre pause ? P-A-U-S-E.
Justement, ça peut être une pause musicale.
C'est-à-dire que vous vous levez, vous mettez la musique,
voilà.
Vous marchez, qu'est-ce que vous
Absolument.
Faites ?
Absolument, je peux mettre un disque, alors qu'il peut être sur l'ordinateur, évidemment, et puis je me détends et j'écoute la musique, et non pas, je n'écris pas, je fais rien.
Mais vous êtes dans quelle position ? Vous dansez ?
Ah non, je suis assis.
Vous êtes assis. En période d'écriture, vous dormez bien ou mal ?
Bien.
Vous mangez beaucoup ou très peu ?
Moyennement.
Bah dites donc, vous êtes un homme du centre. Qu'est-ce que vous faites quand ça vient pas ?
Ah, je fais autre chose. Ne cherche pas. Bah, c'est-à-dire que ça peut être quand on est sur un livre, c'est très prenant. On peut écrire un article, faire autre chose, lire un livre, prendre quelque chose qui vous évade tout en vous ramenant au sujet.
Donnez-moi un mot pour la seconde qui suit le point final. Comment vous définiriez cette seconde ?
Enfin.
Merci Laurent Lemire, enfin vous êtes libéré de ce procès verbal. Fait-on ça avec Voodoo Game ? On l'a pris parce qu'il y a Voodoo et que c'est un peu monstrueux. Et leur chanson elle s'appelle Elle décide.
Amen, de bonnes paroles.
Amuse-Bouche sur France Inter avec Laurent Lemire et son essai Monstres et monstruosités. Et j'en connais, moi, Laurent, qui les ont apprivoisés depuis longtemps, les monstres, qui savent que les écrivains en sont remplis, qui sont habitués d'ailleurs. Ouais. Je veux parler des libraires, des dompteurs de peur. On peut les voir comme ça. Et alors, figurez-vous qu'ils nous appellent, je ne sais pas pourquoi, chaque samedi, en gros, à 7h06, c'est très mystérieux. Que disais-je ? Musique de l'exorciste, vous noterez.
Ah, formidable.
Magnifique sonnerie de portable. Allô ?
Allô, bonsoir, c'est Béatrice. J'appelle pour l'apéro.
Mais Béatrice, vous faites bien, bonsoir. Et ne seriez-vous pas bonsoir. Béatrice Putegna de la librairie Les Cyclades à Saint-Cloud ?
Tout à fait, oui.
La plus belle librairie de la région parisienne. Béatrice, quelle est la question la plus farfelue que vous avez entendue dans votre boutique ?
Alors, la question, c'était une recherche. Hein. C'était en période de rentrée scolaire, quand les enfants, les parents arrivent, se bousculent à la librairie. Deux lycéens, avec une liste de titres longue comme un bras, discutaient entre eux. À voix basse, embarrassés, je m'approche. L'un d'eux devance ma question. « Bonjour madame, on cherche les jeux de l'amour et du bazar. »
Oh, mais ils ont raison.
Leur indique le juste titre. Et je me suis dit que Marivaux n'aurait pas tiqué devant ce titre. Sa comédie pétillante questionne l'ordre établi, les préjugés sociaux en inversant les rapports entre maître et valet. Alors, du bizarre au bazar, les mots bousculent parfois, et c'est bien.
Oh, mais c'est très gentil, Patrice, vous nous avez écrit un petit texte, là, très joli, voilà. Sur ces deux adolescents, et surtout le versant presque monstrueux du couple, c'est qui est un peu le bazar aussi. Alors, quel roman conseilleriez-vous à notre invité, Laurent Lemire,
alors,
Béatrice?
Pour vous, Laurent, j'ai choisi la lecture de La peau de l'ours de Josh Sorman. Un livre qui a parfois révulsé, qui a parfois choqué, qui a parfois déstabilisé. Mais c'est un livre qui ose et qui provoque et qui bouscule justement les points de vue.
C'est super.
La peau de l'ours interroge d'une façon inquiète les rapports entre animalité, humanité, raison et instinct, parfois les plus vils.
Oui, mais c'est surtout, si on rappelle l'histoire, c'est l'histoire d'une créature hybride, en fait, qui
voilà,
naît de l'accouplement d'une
en
femme
fait,
avec un ours.
La relation entre un ours et les habitants d'un village qui est près, proche de la caverne. Au banc de la société humaine, l'ours ne peut approcher des humains. Pourtant, il fascine, alors particulièrement les femmes. Il est un objet de répulsion pour les uns et de désir pour les autres, et donc particulièrement pour les femmes. Au bout d'un moment, l'ours s'approche de plus en plus, va capturer une jeune fille, la retenir prisonnière, et là, tout va déraper,
crac.
Et la viole.
Oh. Alors, n'en dites pas plus, Béatrice. Redonnez juste la référence du livre pour Laurent Lemire.
Alors, c'est La peau de l'ours de Joy Sorman.
Voilà.
Eh bien, écoutez, ça me donne très envie de le lire. Mais c'est vrai que ce sont des histoires. On a, dans l'histoire des monstres, notamment à l'époque de la Renaissance, des êtres humains, des enfants qui naissent difformes et qui sont un peu moitié hommes, animal. Et évidemment, on met toute la responsabilité de cette anormalité à la femme qui a fauté soit avec effectivement un animal ou même si le bébé est très poilu parce qu'elle a regardé un tableau d'un barbu avec un peu trop d'attirance.
Ça m'a étonné, tiens. Voilà. Bon, en tout cas, merci Béatrice. Merci Béatrice Putegna de la librairie Les Cyclades à Saint-Cloud.
Merci.
Et merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Muse-Bouche. On vous attend, Béatrice, pour un apéro monstrueux, forcément.
Oui.
En plus,
avec
vous êtes une femme,
plaisir.
Alors à nous la sauvagerie et l'animalité, Béatrice. À tout de suite.
À tout de suite, au revoir.
C'est l'heure des inavouables, Laurent Lemire. Oui, parce qu'attendez, on a beau être le roi des monstres, on n'en est pas moins homme, donc faillible.
Évidemment.
Alors, y a-t-il une chanson, un film catalogué un peu ringard, un peu kitsch, mais que vous aimez néanmoins?
Je confesse, Dick Rivers.
Dick Rivers, laquelle de Dick Rivers? Parce qu'il en a fait plein.
Non.
Côté inavouable.
Maman n'aime pas ma musique.
Maman n'aime pas ma musique.
Mais dites-moi, pourquoi maman n'aime pas ma musique? Oh, dites-moi, pourquoi maman n'aime pas ma musique?
Chanson parue en 1974. Pourquoi vous l'avez dans la peau, celle-là?
Oh bah sans doute, parce que ça me rappelle des tas de choses. Ça désespère mes enfants qui aiment une autre forme de rock. Moi, j'ai une certaine sentiment d'attirance pour quelqu'un qui essaye quand même d'imiter ces Américains qui n'y arrivent pas toujours.
Et notamment Elvis
Presley, voilà.
Et vous savez qu'il a pris son nom du personnage parce que c'était celui que jouait Elvis Presley dans le film Loving You en 1957.
Eh oui.
Vous avez un petit côté rock'n'roll comme ça, Laurent?
J'aime bien le rock quand même, oui.
On ne dirait pas comme ça, si je peux me permettre.
Ouais.
Vous êtes très, très, très histoire.
Monstrueux.
Quoi. Non,
le
pas
monstrueusement
du tout.
Rock.
Oh là là.
Monstrueusement rock.
Exactement. Laurent, y a-t-il un inavouable que vous auriez du côté de l'image qui bouge? C'est-à-dire film, téléfilm, série télé?
Je confesserais avoir une certaine attirance pour scène de ménage. Oui.
Là aussi, c'est très surprenant.
Oui.
Et pourquoi vous aimez scène de ménage?
Bah, je trouve ça assez kitsch et assez touchant parce que je me dis qu'il y a des situations qui me font sourire et puis j'aime bien les personnages des deux vieux qui détestent le monde entier. Alors là, ils sont monstrueusement détestable et qui s'adore.
On vous parlait sans doute de Huguette et Raymond.
Attends, fais voir. C'était où ça déjà?
Attends, c'était pas l'hôtel des Dunes à Biscarros?
Ah oui, tu as raison. Oh, tu te souviens Raymond, à cette époque, on faisait ça n'importe quand.
Oui.
N'importe où, dès qu'on en avait envie.
Ah, c'était le bon temps.
Oh, à la moindre occasion, et allez hop, c'était parti. Dans les bois, dans les dunes, sur la plage. À l'hôtel. Mmh. Oh, même une fois, tu te souviens, dans un train.
Oui. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, petite Huguette? Avec l'âge, on devient pudique. On ne s'engueule plus qu'à la maison.
Pauvre con, hein. C'est horrible.
C'est con,
voilà. C'est diffusé sur M6 à 20h10 depuis 2009,
eh oui.
Mine de rien. Est-ce que vous avez un classique qui vous tombe des mains, Laurent Lemire? Grand chef-d'œuvre,
oui.
Vous n'y arrivez pas.
Oui,
ça vient pas.
Sad. Alors j'ai été longtemps, j'ai essayé parce que justement Sade fait partie de ces auteurs considérés comme étant un peu monstrueux, tirant vers la normalité, et j'ai trouvé ça toujours très très ennuyeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de considérations théologiques, métaphysiques, et puis des scènes.
Mais il y a un peu d'érotisme quand même.
Oui, mais plus que d'érotisme, il y a carrément des scènes, voilà. Des scènes de torture. Mais tout ça, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout.
Oh ben alors.
Ben non. Mais j'ai eu le même problème avec la Vénus à la fourrure de Sacha Mazor, donc masochisme non plus.
Pas du tout masochiste. Hein? Donc vous écrivez sur les monstres, mais vous n'en êtes pas un.
Oh, c'est gentil.
Elle est jolie, la chute, elle est jolie. C'est sur ces paroles définitives que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Monstre et monstruosité de Laurent Lemire est paru chez Perrin. La semaine prochaine, nous recevrons Antoine Bello pour L'homme qui s'envola, apparu chez Gallimard. L'amuse-bouche est un gros monstre hirsute, fabriqué par Eliane Girard, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Ludovic Asselot. Bonne semaine, n'oubliez pas d'aimer aussi les petits monstres en vous. On vous embrasse et à samedi.